France Musique.
Qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. 11e épisode. Entre ici, Marc Chagall.
Si dans le plafond, il y a la démon point de vue, vous savez, on a grondé, on m'a critiqué avec le plafond. Ne pensez pas. Si je sentirais qu'il y a des défauts là-bas, je demanderais la permission de monter le plafond et de corriger. Je ne serais pas tranquille, mais pour le moment, je n'ai pas ce sentiment. C'est gentiment accepté. J'espère que ça restera là-bas.
Aujourd'hui, on n'imagine plus l'Opéra Garnier sans le plafond de Marc Chagall, qui apparut pourtant presque un siècle après sa construction. Un parfait anachronisme. Car depuis un demi-siècle, ce plafond est la star de l'Opéra de Paris, son soleil. Dans la journée, des milliers de touristes viennent lui rendre hommage, et le soir, au spectacle, lorsque le lustre se rallume à l'entracte, la magie opère toujours, intacte. Quelle émotion lorsque cette symphonie de rouge, de blanc, de jaune, de vert, de bleu fait naître l'aurore ou le crépuscule sur les patines. Souvenez-vous de la soirée inaugurale du 5 janvier 1875. Ça a été un grand moment pour le jeune Charles Garnier. Tout le gratin était là. Le roi d'Espagne, le président MacMahon, l'architecte Viollet-le-Duc. Certes, le pot-pourri d'air, de scènes de ballet et d'opéra a été sympathique, mais rien, ce soir-là, n'a égalé la stupeur de la découverte du bâtiment flambant neuf, ce théâtre merveilleux qui est tellement plus qu'un théâtre. En particulier le grand escalier, salué comme la pièce maîtresse du palais. Le monument dans le monument. Bien plus d'ailleurs que la salle elle-même. Une salle à l'italienne classique, rouge et or, spacieuse, dotée derrière son rideau d'une scène gigantesque et d'attirails techniques impressionnants. Mais dans cette salle, au fait, autour du lustre, il y avait un plafond. Dites-moi, quelqu'un s'en souvient? Ou pourrait me le décrire peut-être? Mais je vous entends déjà. Comment ça, on a oublié le plafond original de Le Neveu? Comment ça, on ne le voyait pas? Charles Garnier serait furieux devant la possible indifférence dont témoigneraient certains à propos du plafond imaginé par Monsieur Jules Eugène Le Neveu. Le Neveu, prix de Rome en 1847, spécialiste des peintures religieuses et des décorations de chapelles. Pour Garnier, Le Neveu n'a pas lésiné. Son plafond est dans le goût des grands plafonds baroques, avec ce qu'il faut d'allégories et de divinités de l'Olympe. Le sujet, le triomphe de la beauté, charmé par la musique, au beau milieu des muses et des heures du jour et de la nuit. Avec majuscule à chaque mot, s'il vous plaît. Le Neveu a réalisé sa peinture sur 24 panneaux de cuivre, assemblés en trois larges éventails formant une coupole, sur une superficie de 200 mètres carrés. Et l'ensemble a recueilli tous les éloges de l'architecte. On y voit, décrit Garnier, des figures montant et descendant comme des nuées d'oiseaux, et la lumière du soleil levant éclatante et pourprée, la lumière de la pâle lune sombre et argentée. Tout frémit, voltige, tourbillonne dans les airs. On regarde cet ensemble avec plaisir et charme. Cela est logique, cela est beau, cela est bien. C'est logique, c'est beau, c'est bien, en 1870 peut-être. c'est peut-être aussi un peu court, non ? Car progressivement, d'année en année, les couleurs utilisées par le neveu pour son plafond ont perdu leurs pigments, se sont affadies, ternies. Il avait utilisé une peinture sans plomb pour limiter les possibilités d'incendie. Est-ce à cause de cela, ou à cause de la poussière, ou encore de l'éclairage au gaz ? Il faut dire qu'un lustre de 8 tonnes, en bronze doré et en cristal dessiné par Garnier, est suspendu en son centre pour éclairer la salle. Il est haut comme 2 étages et alimenté par 340 becs de gaz dont les fumées s'évacuent directement vers le plafond. On a bien essayé de remplacer le gaz par la nouvelle technologie électrique, grande fierté des expositions universelles parisiennes de 1881, 89 puis 1900, avec son apothéose, le palais de l'électricité. Mais ce n'est qu'en 1903 que ce lustre monumental sera équipé de 320 ampoules électriques et raccordé au secteur public, devenu apte à fournir et transporter l'énergie nécessaire au théâtre. En 1936, le plafond de Le Neveu est si encrassé que plus personne n'est capable d'affirmer qu'il représente les heures du jour et de la nuit. On décide alors de le nettoyer. Car au fond, il ne dérange personne, ce plafond. Il ne fait pas de bruit. Il est pompier, oui, mais à l'image du palais Garnier. Et aussitôt restauré, aussitôt oublié à nouveau, il se rendort. 25 ans passent. Et puis, le 17 février 1960, on donne à l'Opéra de Paris un gala en l'honneur du président de la République du Pérou. Une soirée huppée. Au programme, Daphnis et Chloé de Ravel dans les décors et les costumes de Marc Chagall. Parmi ces aréopages, Monsieur le ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, André Malraux. Chagall, présent ce soir-là, vient saluer son vieil ami Malraux à l'entracte. Tous deux se connaissent depuis près de 40 ans. Sur un coup de tête, un coup de génie, un peu des deux peut-être, le ministre lance au peintre « Chagall, pourquoi ne feriez-vous pas un nouveau plafond pour l'opéra ?» Chagall est sous le choc. Recule, surpris. Puis répond, dans un geste un peu vague, « Mais qui refuserait un pareil honneur ?» L'aventure, que dis-je, le scandale du nouveau plafond est lancé. L'idée de commander un plafond à Chagall est-elle venue à Malraux durant cette soirée, comme la presse le rapporte ? C'est ce que la légende retiendra. Le malheur insondable de notre peinture académique est qu'avec ses compositions prétendument savantes, ses lignes anémiées, ses couleurs pauvres et recherchées, elles n'aboutissent qu'à une grisaille morte, rapporte un journaliste. L'idée d'échapper à cette misère est venue à Malraux comme cela. Un soir de gala officiel, il leva les yeux vers le plafond de l'opéra, cherchant une évasion, et n'y trouva que cette opacité. Bien sûr, Malraux n'a pas agi de manière aussi impulsive. Son idée était mûrement réfléchie. Et sa décision doit être replacée dans le contexte de sa politique de démocratisation et de modernisation culturelle, car son ministère a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience du patrimoine culturel et de favoriser la création d'œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Malraux milite pour le musée imaginaire. Il souhaite que de grands ensembles décoratifs réalisés par des figures majeures de l'art moderne viennent, en dehors des musées traditionnels, orner, éclairer des monuments nationaux. Il a contribué quelques années plus tôt à ce que Georges Braque décore la salle des Étrusques, au Louvre, et bientôt, il commandera à André Masson un nouveau plafond pour le théâtre de l'Odéon. Malraux qualifie Chagall de « plus grand coloriste vivant ». Sa peinture doit moderniser l'Opéra de Paris et par ce mariage stylistique qui promet d'être inattendu, sortir le vénérable Palais Garnier de sa torpeur. Car les programmes de l'Opéra ne font pas rêver, la maison somnole, sans parler des querelles internes. Aux yeux du public, ça passe mal, très mal. Les couleurs, justement, les couleurs de Chagall vont jurer au sein de l'Opéra Garnier. Malraux résiste. La commande passée à Chagall en février 60 est rendue officielle le 22 juillet 1962.
Liegt er gebunden mit Astrik. Hoch im Himmel flieht der Vogel, flieht und reiht sich in uns Rieg.
Chagall songe pourtant à refuser. À 77 ans, il n'a plus l'âge de monter sur les échafaudages. Mais l'offre est tentante. Laisser son œuvre dans un édifice aussi fabuleux que l'Opéra Garnier est un merveilleux honneur. Alors c'est décidé. Il annonce qu'il fera ce travail, et gracieusement même, comme un cadeau à la France, pays qu'il vénère et qui lui a tant donné. Peintre juif d'origine russe, il a choisi de s'installer en France et de devenir français en 1937, à l'âge de 27 ans. Chagall se met donc au travail. Pour lui d'abord. Des petites études préparatoires, des tâches colorées abstraites, une cinquantaine d'esquisses, dans différentes techniques, crayon, encre, gouache, feutre, découpage de tissu, papier collé. Il multiplie les dessins sur le thème de la musique et choisit les compositeurs auxquels il aimerait rendre hommage. Debussy, Ravel, Moussorgsky, Tchaïkovski, Mozart surtout, son cher Mozart. Il aura la place d'honneur. Mozart écoute la dictée des anges, s'exclame Chagall. Il faut faire chanter le dessin par la couleur. Il faut faire comme Debussy. Comme Debussy. Enfin, il choisit deux grandes maquettes au dixième du format et va les présenter au général de Gaulle et à Malraux. Le projet retenu par Malraux et le gouvernement ? Une composition tournoyante dont la puissance d'exaltation vous prend au ventre. Trois axes verticaux ordonnent le plafond. Roméo et Juliette enlacés, la tour Eiffel, le tandem renommé rouge et ange au sourire de Mozart. Cinq pétales associent à chaque fois deux compositeurs à une couleur, blanc, rouge, jaune, vert, bleu, avec des parties de liaison qui unissent les pétales les uns aux autres. Dans la partie centrale du plafond, qui n'était pas peinte autrefois, car destinée à l'échappement des gaz de combustion du grand lustre, on trouve le soleil. Chagall y a peint quatre compositeurs qu'il apprécie tout particulièrement, Beethoven, Gluck, Bizet et Verdi. S'y croisent Fidelio, Carmen, Orphée et Eurydice. Le peintre s'y est représenté, ainsi qu'André Malraux, dans le panneau dédié à Pelléas et Mélisande de Debussy. Il y a aussi des évocations du répertoire de l'opéra, de l'architecture de Paris, du Palais Garnier. Des références à ses goûts musicaux à lui. Lui qui, dans sa Russie natale de Vitebsk, s'imaginait chanteur, puis violoniste avant d'être peintre. Lui qui disait « Moi-même, je deviens un son. » Thank you. À 77 ans, Marc Chagall a besoin d'aide. Le projet est monumental par ses proportions. En mars 1964, Roland Bierge, décorateur à la Comédie-Française, est désigné pour exécuter le plafond d'après la maquette. Il s'installe à la manufacture des Gobelins et avance pour la petite partie centrale. Bierge se fait assister des peintres Paul Versteeg et Richard Pachal. Mais Chagall surveille et participe activement. Je cite Roland Bierge. « Tôt le matin, il nous surprenait rechargeant sa palette. Nous lui disposions un simple bouquet de fleurs, car il aimait hausser sa couleur à celle des fleurs. Il travaillait sans relâche, nous faisait peindre près de lui. À trois, nous arrivions à peine à le servir. Il anéantissait une brosse en un quart d'heure. Souvent, le manche cassé et il le jetait au loin avec violence. Il aimait écouter de la musique de Mozart et parfois peigner avec beaucoup de tendresse. Il fallait lui rappeler l'heure, le jour. Il n'avait jamais faim, jamais soif. Il n'était jamais fatigué.
C'est un travail terrible. Mais quand je vis même de Gaulle, dans la loge, il montrait avec le doigt à une prince à côté dans la loge, il a dit « Voilà ça, et quand Malraux a accepté ça, comment voulez-vous que je ne serais pas un petit peu fier ?»« Ah oui, je sais. Ah oui, quand il a accepté, c'était dur pour moi de faire ça. Je devais faire même plusieurs esquisses, plusieurs maquettes, parce que ma femme a dit « C'est pas gentil de faire une seule maquette. » Et après, inviter Malraux pour choisir. Quoi choisir? Il faut faire plaisir. Je devais faire plaisir, c'était dur. J'ai fait plaisir, il a choisi. Ça, il faut dire un petit peu. Je suis content quand c'est fait. Quand c'est fait à Jérusalem, eh bien, je suis aussi un peu content. Vous m'excuserez que je vous dise ça. À Metz, cathédrale, il y en a ça. Je suis content aussi. Eh bien, United Nations, il y en a les vitrailles. Quand même, je suis content. Vous voyez, je suis content. Quand c'est quelque chose, c'est fait quelque chose, c'est placé quelque part. Voyez-vous? Ça ne dit pas que ça vivra, je ne sais pas. Je suis content, c'est quelque chose de fait. C'est fait quelque chose. Voilà.
Malraux a une idée magistrale, lancent les uns. Une petite minorité, à vrai dire. Les autres crient au sacrilège, au vandalisme, face à cet anachronisme annoncé. La presse se lâche, Malraux est attaqué. Pourquoi, sur une si belle lancée, ne pas équilibrer le carpeau par une compression de César en lançant quelque autobus sur la façade aux heures de pointe? Ou couronner le dôme d'un mobilier de caldère, relever l'ensemble de quelques mégalithes adamites et organiser en permanence un duel Mathieu Dali sur les marches du grand escalier. Ou tout peindre en bleu. Tout cela sera amusant peut-être, inattendu en tout cas, moderne en un mot. Car quoi, avance un autre journaliste, elle valait ce qu'elle valait cette peinture de Le Neveu, mais elle convenait fort bien au reste de la pâtisserie architecturale. Malraux tient bon. Il fait le sourd quand on l'appelle le Colbert du XXe siècle ou tête de l'art avec un T. Lorsque, pour calmer la tempête, le ministre explique que le plafond sera amovible au cas où Chagall passe de mode un jour, on lui rit au nez. Tout cela n'est pas sérieux. C'est le triomphe de la politique de l'aventure ou de l'art soumis aux caprices du hasard, ce qui est pire encore. Chagall aussi est atteint. Il devient le peintre le plus contesté de l'époque. Il y a 30 ans, écrit un journaliste, il a été un bon décorateur, un gentil fabuliste, le Florian des steppes, le Bernardin de Saint-Pierre de Lisba. Mais aujourd'hui, ses vitraux, ses petits coqs, ses petits ânes, ce bestiaire de pain d'épices, cet insipide coloriage des dernières toiles, ce festival du calendrier distribué par un facteur cheval, abonné aux veillées des chaumières. Fermez le banc. Mais au-delà de ces critiques artistiques, pire encore sont les attaques personnelles. Et derrière une haine affichée de l'art moderne, Ce sont des relents malsains, xénophobes et antisémites qui jettent un froid et mettent tout le monde mal à l'aise. Chagall, en premier lieu.
Eufen foro, liegt a keobe, liegt gebunden mit a strick. Hoich im Himmel, flieht a Vogel, flieht und reiht sich in.
Ça y est, le travail est terminé. 5 toiles, 220 kg pour 220 mètres carrés de superficie, sont assemblées puis marouflées sur une coque en plastique dans un ancien hangar à dirigeable. Et voilà bientôt cette coque en plastique fixée au palais Garnier, à quelques centimètres de la coupole en cuivre de Le Neveu. Adieu Le Neveu, bonjour Chagall. Que de couleurs, que de soleil, que de feu. Relever ce défi a donné à Chagall une seconde jeunesse. Il se dépense sans compter. À l'opéra, on le voit dans la salle apporter la touche finale à son plafond, perché à 21 mètres du sol. Je ne pourrais trouver les mots, comme vous le faites, pour vous dire comme j'étais content, surtout dans ces jours où le grand travail du plafond que vous m'avez confié touche à sa fin, avoue-t-il à André Malraux, le 10 juillet 1964. Je ne peux pas comprendre comment et par quelle force j'ai pu quand même le réaliser. Il n'y a pour moi d'autre explication que votre confiance, votre magique personnalité et mon amour pour la France qui m'ont poussé. Je peux dire que j'étais comme ivre. J'étais entraîné sans pouvoir m'arrêter. Le 23 septembre 1964, 2 jours après avoir été dévoilé à la presse, le nouveau plafond est inauguré en présence de 2000 invités. Tandis que Manuel Rosenthal et Richard Blarot dirigent l'orchestre du Théâtre de l'Opéra, le corps de ballet défile sur la marche des Troyens de Berlioz. Puis, l'orchestre seul joue le final de la symphonie Jupiter en l'honneur de Chagall. Enfin, le ballet à nouveau. Daphnis et Chloé, le ballet de Michel Fokine dans une chorégraphie de Georges Kibine. Les critiques se taisent. On dirait que le scandale s'est émoussé. En réalité, c'est un succès. Y compris chez les sceptiques et les détracteurs. Des critiques resurgiront ici et là, de temps en temps. On entendra même reprocher à Chagall d'avoir oublié Faust de Gounod, la belle affaire.
C'est toujours le même problème. Il y a un certain nombre de gens qui trouvaient mauvais quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Il était indispensable que dans un endroit où le plafond avait disparu, on puisse retrouver l'immense qualité poétique qui est celle de la musique et qui a été celle de tous les grands plafonds italiens. Chagall avait dit, en somme, je ne ferai pas quelque chose comme Tiepolo. Eh bien, il a fait parfaitement quelque chose d'aussi bien que Tiepolo, et il a apporté la fête de Paris avec tout ce qu'il apportait de si loin, comme l'autre avait apporté la fête de Venise. Les gens qui étaient ici, qui viennent d'applaudir, étaient arrivés sans préjugés, ils ont reconnu la poésie, ils ont applaudi. Eh bien, madame, tant mieux.
Malraux ne s'y est pas trompé. Ce que la poésie d'Aragon, très inspirée par Chagall, confirme dans ce « Madrigal pour un plafond ». Ainsi la danse, la musique, ainsi le rêve, contrebalance en nous le plomb d'aube du jour. La parole mobile, légère à la lèvre, comme se font l'homme et la femme dans l'amour, Chagall. Et l'opéra s'emplit du chant pur des cigales vers cet azur Mozart pourpre. Pour Debussy, où l'enfant à l'enfant enseigne l'art égal de l'être et du désir, et sous tes doigts, voici Chagall. Marc Chagall, il y a désormais cette voûte au-dessus de l'orchestre et du terre profond. Et fantastiquement dans la nuit, à l'écoute, une morale neuve est écrite au plafond.
J'étais un mauvais élève. Je n'ai rien appris. On apprend chez des parents, mon père, ma mère, oui, ça c'était, comme j'ai écrit, ça c'était l'école. Quand j'ai vu mon papa, mon père travaille durement, il boit du thé, il fait des cigarettes, fatigué. Et quand j'ai vu ma mère faire la cuisine pour 8 enfants, ça c'était l'école pour moi. Puis j'ai sorti, j'ai vu le ciel avec des toiles et des petites filles si gentilles que je ne touchais pas. Ça, c'était l'école. Et tous mes tableaux sont là. Pas d'académie. Comment dessiner? Je préfère plutôt mal, très mal dessiner. Mal dessiner, ça, c'est bien. Mais pour moi, vous savez, je parle de la vie, l'art, soi-disant, qui n'a pas un certain élément d'illogisme, illogique. Et ce n'est pas de l'art. Si l'art n'est pas seulement réel, s'il n'a pas une certaine irréalité, il n'est pas réel. Ça, je dis ça quand j'étais garçon, encore en 1907, quand on m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai mis les morts dans la rue, et sur le toit, il y a un musicien, et tout ce que vous voulez, moi, j'ai senti pourquoi la bouteille est renversée, la tête coupée. C'est parce que j'ai senti ça. On a besoin, je ne peux pas expliquer. Peut-être Freud expliquait bien. Après Breton est venu, on a fait un surréalisme. Mais pour moi, vous savez, quand il n'y a pas un certain élément illogique, irréel, il n'y a pas de réalité. Je ne suis pas capable d'expliquer, je ne suis pas un théoricien. Je me lève à 8h. Avec atelier, je lis, je regarde, je frotte, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de système chez moi, vous savez. Non. Il faut travailler beaucoup, mais ça ne dit pas que vous avez un système. Oui, je crois que le blé me convient, je ne sais pas pourquoi. Avec le blé, oui, c'est vrai, le blé, le blanc, le noir. Je ne sais pas. Oui, on est né peut-être. On est né avec une certaine couleur. Et puis en France, j'ai vu des gens travailler le marché. Oh mon Dieu. Je parle en 1911. J'aimais beaucoup cette méthode. Il n'y a qu'à voir les tableaux de Chardin et de Poussin et de Monet. Tout c'est formidable. C'est ça la France. Vous savez, pour faire ça. Pour faire Cézanne, faire Monet et faire, vous savez, la cuisine française, c'est beefsteak et tout ça. Il faut avoir le génie, c'est ça l'art.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Jérémy Rousseau, France Musique.
Le plafond de Marc Chagall, écoutez-le. Nous avons écouté des pages de Bizet, Berlioz, Mozart, Stravinsky, Moussorgski et Debussy. Référence à retrouver sur francemusique.fr. C'était l'Opéra de Paris, toute une histoire, émission préparée par Marion Guillemet, prise de son et mixage Guillaume Ledu et Benjamin Vignal, réalisation Claire Lagarde. Demain, 12e épisode, Rolf Liebermann, un nouvel âge d'or.
France Musique, c'est l'été. À réécouter sur francemusique.fr.